Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Cinécure. Dites-moi si cette situation est familière. Il est 16h et vous commencez à vous demander ce que vous allez faire ce soir. Quand soudain, vous vous souvenez que vous payez un abonnement à
la plateforme de streaming de votre choix.
Oh bah ce soir, je pourrais me regarder un film, tiens. J'ai toujours mon abonnement à
la plateforme de streaming de votre choix.
Attends, je crois que j'ai reçu un email me confirmant que j'avais payé, mais je sais plus si c'est ce mois-ci ou le mois dernier. Ah bah tiens, je suis toujours abonné, tiens. Mais attends, c'est quoi ça? Attends, c'est le montant? C'est le montant par an ou c'est le montant par mois? C'est le montant par mois? Attends, c'est une blague? Mais je regarde jamais rien sur
la plateforme de streaming de votre choix.
Avec tout ce que j'investis là-dedans, j'en profite même pas. Bon, ce soir, je mate un film, c'est sûr. Tiens, je vais aller faire un tour sur Instagram tant que je suis là. Tout à coup, il est 21h et vous n'avez pas mangé, mais vous avez toujours envie de regarder un film. Alors vous ouvrez
la plateforme de streaming de votre choix
et vous commencez à regarder les films proposés. Mais rien ne vous inspire. Ou plutôt, si, tout vous inspire, mais rien ne vous fait vraiment envie. Alors vous décidez d'enquêter un peu plus et tout à coup, il est 23h30 et non seulement vous n'avez toujours pas mangé, mais en plus le film qui devrait être à 7h6 terminé n'a même pas commencé. Pris de panique, vous lancez la dernière production de
la plateforme de streaming de votre choix.
Et vous comprenez au bout de 20 minutes que c'est un documentaire que l'algorithme vous a proposé parce que vous avez cliqué par erreur sur une miniature une fois qui vous rappelait vaguement la photo d'un pote d'enfance. Il est 23h50, vous arrêtez le massacre. Avec un peu de chance, il y a un reste de coquillettes et du jambon et vous pouvez être au lit avant minuit et demi. Ça vous parle? Eh ben c'est terminé parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis là pour vous aider. Je me charge de regarder les films et tous les premiers mercredis du mois, je vous en propose 4, un par semaine. Il n'y a aucune limite d'époque ni de genre et ils sont tous disponibles en ligne, compris avec un forfait ou bien la location. On y va pour le mois de juin? C'est parti. Max et les ferrailleurs de Claude Sauté. Max, un ancien juge devenu flic, ne parvient pas à mettre fin à la recrudescence des vols à main armée qui ont lieu dans sa juridiction. Par hasard, il rencontre Abel, un ancien camarade de service militaire plutôt gentil et peu en veine, qui lui confesse vivre de petits boulots, plus ou moins illégaux, mais pas très lucratifs. Max décide de le manipuler à travers sa compagne Lily, une prostituée qui a de la suite dans les idées, afin qu'Abel et sa bande réalisent un hold-up dans une banque pour les arrêter. Mais à ce petit jeu, il se pourrait bien que ce soit Max qui se retrouve piégé.
De quoi ?
Te déshabiller, c'est pas la peine.
Tu ne veux pas faire l'amour ? Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Rien. On passe un moment.
T'as quelque chose?
Non, pourquoi?
Je sais pas, tu... On fait rien du tout.
J'aime jouer aux cartes, mais là, j'ai pas le temps.
Pourquoi t'es monté?
Je t'ai trouvé jolie.
T'as besoin de monter avec une fille pour jouer aux cartes? T'as pas d'amis?
Si. Beaucoup trop.
Claude Sauté, c'est un réalisateur que j'ai découvert relativement tard. C'est un homme qui a eu un parcours dans le cinéma d'abord très intéressant, mais surtout assez chaotique. En réalité, il a commencé à réaliser en 1956 avec un film qui s'appelle Bonjour Sourire. Et surtout, en fait, chaque étape jusqu'en 1970, donc ça fait quand même ça fait presque 15 ans, a été très douloureuse et s'est accompagnée à chaque fois d'un renoncement de sa part, en tout cas d'une vraie volonté d'abandonner le cinéma, en tout cas la réalisation. Voilà. C'est un homme qui a été très longtemps script doctor. Il a beaucoup aidé, beaucoup participé à de nombreux scénarios du cinéma français. Et il a travaillé avec de nombreux scénaristes, ce qui l'a aidé ensuite quand il a vraiment commencé à faire de la réalisation. En 1970, il a l'opportunité de faire le film qui va le mettre sur la carte des réalisateurs français, qui est Les choses de la vie, avec Michel Piccoli et Romy Schneider. Au-delà de l'emploi de Michel Piccoli et Romy Schneider, qui reviendront donc pour Max et les Ferrailleurs en tant que couple aussi, un couple bien différent, Les choses de la vie est un film extraordinaire et j'aurais très bien pu d'ailleurs vous en parler. Je l'ai d'ailleurs fait sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas, vous pouvez me suivre @charledy. Mais je trouve qu'il y a dans Max et les Ferrailleurs quelque chose de plus subtil. C'est une sorte de revanche un petit peu sur sa carrière de cinéaste jusqu'à 1970, puisqu'il avait fait quelques films de genre, quelques films de gangsters, notamment Classe Touriste, que je vous conseille, avec Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo. Et là, il prend un petit peu cette même ambiance, ce même milieu. Sauf qu'il le prend, il le passe à la sauce du nouveau sauté, celui qui est né en 1970 avec Les choses de la vie. C'est pour ça que je trouve que Max et les Ferrailleurs est quelque part plus complet. Attention, j'insiste, Les choses de la vie, voyez-le. Il est extraordinaire, c'est fantastique. C'est un film qui est bourré d'excellentes idées cinématographiques. Mais Max et les Ferrailleurs, c'est... En plus d'être un très bon film, sur le fond et sur la forme, c'est aussi, par son genre, un excellent cadre pour les deux acteurs que sont Michel Piccoli et Romy Schneider, cadre dans lequel ils vont pouvoir exprimer tout leur talent d'acteur, puisqu'il s'agit de faire évoluer ces deux personnages petit à petit, pas à pas, de manière très subtile, en changeant quelques points par-ci, quelques autres points par-là. Et vraiment, Schneider et Piccoli vont relever le défi avec brio. En plus de ça, ils sont accompagnés d'un casting qui, selon moi, est un des meilleurs du cinéma français, tout simplement. François Perrier, Philippe Léotard, Bernard Fresson, il y a même Bobby Lapointe. Voilà, franchement, pour moi, c'est un très 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 bon film. Je vous le conseille chaudement. Et en plus de ça, il est disponible sur Netflix, donc que demander de plus ? Cette même année 71 sortait au cinéma La folie des grandeurs de Gérard Houry, Love Story d'Arthur Hiller et Diamonds Are Forever de Guy Hamilton. La prisonnière du désert de John Ford, durée 1h59. Titre original, The Searchers. Ethan Edwards, un ancien soldat sudiste, raciste et solitaire, se trouve embarqué à la recherche de sa nièce, Deborah, kidnappée par les Comanches après avoir laissé pour mort le reste de sa famille. Martin Pauli, un jeune homme naïf aux origines amérindiennes, qui a été adopté par la famille Edwards, accompagne Ethan. Les deux hommes sillonnent le Midwest à la recherche du clan responsable de la mort de leur famille et leurs idéologies s'affrontent sur fond de mise en place de ce que deviendront les États-Unis.
Back there was that a band of hostile Comanche came through less than a week ago. I asked if there was a white girl with them. They got sullen, suspicious.
Do you think it might have been?
I don't know. What's she following us for?
Oh, you go on back now. Go on.
Oh, look, I changed my mind. You can keep your blanket. Oh, look, you don't understand. I don't want it.
You don't understand, you chunkhead. You didn't buy any blanket. You bought her. You got yourself a wife, sonny.
John Ford et John Wayne. Attention, monstres sacrés tous les deux de Hollywood, l'un réalisateur et l'autre acteur. C'est un peu plus d'une quinzaine de films ensemble. Pour n'en citer que quelques-uns, La Chevauchée Fantastique, L'Homme qui tue à Liberty Valance, Fort Alamo, Fort Apache, L'Homme tranquille. Il n'y a pas que des westerns, il y a toutes sortes de films. Et vraiment, on peut dire que si c'est Raoul Walsh qui a découvert John Wayne, c'est vraiment John Ford qui lui donne ses lettres de noblesse. La prisonnière du désert n'a pas été bien reçu à sa sortie. Je trouve personnellement injustement. C'est un film qui, effectivement, quand on le voit la première fois, pourrait faire penser à un film avec une violence crasse, un peu basique, vraiment brutale. Et si on le voit qu'avec cette couche de lecture-là, si on fouille pas un peu plus, si on se questionne pas à propos du film, effectivement, on peut y voir un film où un personnage raciste bénéficie d'une grande présence à l'écran et lâche des théories toutes plus vulgaires et insultantes les unes que les autres. Voilà, ça c'est la première couche de lecture. Moi je trouve que l'intérêt du film, il est dans ce qu'on va trouver en fouillant et en réfléchissant un peu plus loin que ce que le personnage de John Wayne a à nous offrir. Et en l'occurrence, c'est un film qui parle de violence, bien entendu, et qui parle de la manière dont les États-Unis ont été construits. Et en réalité, c'est un film qui dénonce en réalité un peu ça, qui dénonce cette violence et qui dénonce la brutalité avec laquelle les États-Unis se sont faits, que ce soit du côté des Amérindiens, qui étaient quand même les agressés de l'histoire, ou du côté des Américains, qui sont quand même des colons, qui sont venus occuper un espace qui ne leur appartenait pas et qui ont sorti de là les habitants, donc les Amérindiens, avec une violence et une brutalité inouïes. Voilà, moi je pense que John Ford, il parle de ça quand il fait La prisonnière du désert. Et là, les choses sur lesquelles je m'appuie, d'abord, c'est un contexte historique, c'est-à-dire que quand il tourne La Prisonnière du désert, John Ford, ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait de western. Donc, il a fait Rio Grande, le convoi des Braves, et puis après, pendant 5 ans, il fait une pause sur les westerns, il passe à autre chose, et là, il revient et il filme, à mon sens, l'Ouest américain, ou en tout cas, toute l'imagerie du western, comme il ne l'a jamais fait avant. Donc, il faut savoir que le film a été tourné à Monument Valley, que vraiment le paysage a un rôle très très important dans le film, et je pense que c'est un peu la manière de John Ford de rendre hommage à ce pays et de dire oui, je sais bien que c'est pas le nôtre, qu'on n'aurait pas dû être là et que des exactions ont été commises, mais voilà, c'est la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. La réalité, c'est qu'on est des colons et qu'on a envahi les choses et que ça on a créé des guerres, ni plus ni moins. C'est une guerre, en fait, c'est une guerre entre un chef à Comanche et John Wayne, le personnage de John Wayne, qui est aussi un soldat qui était parti faire la guerre de sécession, puis qu'on n'avait pas revu depuis. Voilà, moi je trouve que c'est un film en plus où les paysages sont tournés comme jamais, c'est magnifique. Le premier plan et le dernier plan sont connus, vous pouvez les retrouver sur internet très facilement. Moi je trouve que c'est une note d'intention, voilà, pour moi c'est ça. C'est aussi, alors petit fun fact, le film préféré de John Wayne, qui a même nommé son dernier fils Ethan en hommage à son personnage. Et c'est marrant parce que quand on voit le propos de John Ford, en tout cas mon interprétation du propos de John Ford et l'attachement de John Wayne à ce rôle, on aurait tendance à croire que les deux hommes étaient un peu sur la même longueur d'onde. Bon, quand on fouille un petit peu sur le personnage de John Wayne, on s'aperçoit que pas du tout. Finalement, lui, il est plutôt proche de son personnage. Je suis en train de relire notamment l'interview qu'il a donnée à Playboy en 1971, une interview assez connue que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Si vous la trouvez pas, contactez-moi, je vous l'enverrai. Bon, c'est horrible, hein, c'est ignoble, vraiment c'est des théories abominables sur toutes les minorités, etc., etc. Enfin bref, vraiment très très proche de son personnage de Ethan Edwards dans La Prisonnière du désert. Alors que John Ford, ça n'a pas non plus été le champion du camp démocrate, clairement, mais c'est quelqu'un qui s'est opposé notamment à toute la chasse aux sorcières qui a eu lieu à l'instigation du sénateur McCarthy dans les années 50, et qui notamment s'est opposé avec fermeté à Cecil B. DeMille, qui lui faisait partie d'une association, en tout cas, qui se destinait à blacklister certains acteurs, certains scénaristes dont on pouvait penser qu'ils étaient communistes. Association dans laquelle a été très très actif un certain John Wayne. Donc il y a cette petite différence entre les deux qui, à mon avis, fait tout le sel du contexte autour de La Prisonnière du désert, film donc que je vous recommande et qui est disponible, je vous le donne en mille, sur Salto. Voilà, pourquoi pas. Cette même année 56 sortait La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, La Fureur de Vivre de Nicholas Ray et L'Homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Victor Victoria de Blake Edwards, durée 2h14. À Paris, dans les années 30, Victoria est une jeune femme douée pour le chant, mais inadaptée aux demandes des cabarets. Toddy est un chanteur établi, gai jusqu'au bout des ongles, et qui a un don pour s'attirer des ennuis. Fauchés tous les deux au moment de leur rencontre, ils établissent un plan qui va faire de Victoria une immense star, si elle est prête à mentir sur son genre. Victoria devient Victor. Les rouages de ce plan vont se voir grippés par l'intervention de King Marchand, un homme d'affaires qui fréquente la pègre et qui tombe amoureux de Victoria.
What's wrong?
Oh, nothing, nothing. I'm finding this trip to Paris a little more bizarre than usual.
Thanks a lot.
Oh, not you. Not you.
Why not me? I mean, woman pretending to be a man.
You can stop pretending.
And do what?
Be yourself.
And what's that?
What do you mean? You're a woman in love with a man.
Yes.
Are we communicating?
You said a woman in love with a man, but you didn't finish.
Okay. What's the finish?
A woman in love with a man pretending to be a man.
I said you can stop pretending.
But you see, I don't think I want to.
Comment vous parler de ce film ? Je pourrais commencer par la petite anecdote sympa, puisqu'il s'agit d'un remake d'un film de 1933, un film allemand, Victor und Victoria, de Reinhold Schunzel, et qui a été d'ailleurs refait quasiment plan pour plan en français, sorti en 1934 sous le titre Ultra Vendeur de Georges et Georgette, film réalisé par Roger Lebon. Je pourrais aussi vous parler du succès du film, puisque c'est un film qui gagne l'Oscar de la meilleure musique. Henri Mancini, qui est un collaborateur habituel de Blake Edwards, le remporte en 1983. Seront aussi nominés Julie Andrews pour la meilleure actrice, Robert Preston, son partenaire, pour le meilleur second rôle. Julie Andrews remporte le Golden Globe. Bon, je m'arrête là, c'est un film qui a très bien fonctionné. Je pourrais aussi vous en parler en vous parlant du mouvement culturel dans lequel il s'inscrit, puisqu'au début des années 80, un certain nombre de films vont aborder le thème du genre, le thème de la sexualité, particulièrement l'homosexualité. On retrouve notamment Tootsie de Sidney Pollack, bien sûr. Quelques années avant, on avait eu Cruising de Friedkin. On retrouve aussi Making Love de Arthur Hiller, Partners de James Burroughs, Personal Best de Robert Towney et, bien entendu, Yentl de Barbara Streisand. Victor Victoria s'inscrit sans aucun problème dans ce mouvement-là. Et en plus, il le fait avec brio, puisque comme je viens de vous le dire, c'est un film qui a touché le public, c'est un film qui a remporté des prix, et en tout cas qui a même été nominé sous plusieurs aspects pour ces prix-là. Mais la réalité, c'est que Victor Victoria est venu titiller en moi la raison pour laquelle on aime un film. J'ai déjà un peu abordé ça dans l'épisode précédent avec El Secreto de sus Ojos. Il y a les films qu'on aime parce qu'ils touchent un sujet qui nous émeut particulièrement, qui nous est cher. Il y a les films qu'on aime avec le temps. On les a pas forcément beaucoup aimés quand on les a vus. Et puis finalement, on les digère, ils restent en nous et on y repense. Et puis il y a les films qu'on aime instantanément sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi, quasiment du domaine du coup de foudre. Victor Victoria a définitivement fait partie de ces films-là pour moi. Son genre, son thème, ses acteurs, rien, a priori, ne me destinait à l'aimer. Et pourtant, j'ai passé un moment extraordinaire, je l'ai aimé instantanément. C'est une comédie musicale, c'est donc un style pour lequel je n'ai pas une affinité particulière. Je ne dis pas que je n'aime pas ça, mais je ne dis pas non plus que j'adore ça. Et pourtant, quand j'ai vu ce film, d'un seul coup, j'ai adoré tous les numéros musicaux. Je les ai trouvés bouleversants, touchants, drôles, amusants. Et en plus de ça, le film est intelligent, aborde le thème de l'homosexualité de façon très maligne et extrêmement moderne, probablement plus que pas mal des films que je vous ai cités, parce que certains sont clivants, d'autres se limitent à être des comédies, ce qui est déjà très bien. Ici, il y a vraiment un propos, il y a quelque chose, il y a un échange. Les personnages réfléchissent, et nous avec, et c'est vraiment ça qui fait la magie de ce film-là pour moi. Je l'ai revu tout exprès pour le podcast, et vraiment quel plaisir et quel bonheur de repartager ces moments-là avec ces personnages-là, de profiter de l'écriture très très maligne de Blake Edwards et de ses collaborateurs, et de juste m'amuser en fait pendant 2h15, de profiter de ce film et de tout ce qu'il a à offrir, de ses décors, de ses costumes, et juste même de son histoire. Voilà, il y a des films comme ça qui vous font réfléchir même au principe même de l'amour des films. Victor et Victoria, pour moi, c'est ça. J'espère que vous en profiterez et que vous l'aimerez autant que moi je l'aime. Il est disponible à la location sur la Cinéthèque pour 2,99€. Ça les vaut amplement. Cette même année 82 sont sortis E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, La Boum 2 de Claude Pinoteau et Mad Max de George Miller. Le jour se lève de Marcel Carnet, durée 1h33. François, un enfant de l'assistance qui trime à l'usine pour une paye misérable, tue Monsieur Valentin, un dresseur de chiens beau parleur qui aime à mentir et tromper son monde, après que ce dernier a avoué avoir abusé de Françoise, une jeune fille naïve de l'assistance elle aussi, et dont François est amoureux. Enfermé, acculé, François repense aux événements qui l'ont mené à commettre l'irréparable.
Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous guettez tous ?
Qu'est-ce qu'il a ? Il est devenu fou ?
Il va se foutre par la fenêtre ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Il est à sa fenêtre !
Mais qu'est-ce qui se passe, hein ?
Je suis pas une bête curieuse, moi ! Qu'est-ce que vous attendez ? Ah, vous attendez que je saute ? Ah ! Un assassin reste intéressant, un assassin ! Je suis un assassin ! Mais oui, je suis un assassin ! Mais les assassins, ça court les rues ! Il y en a partout ! Partout, tout le monde tue ! Tout le monde tue un petit peu seulement ! On tue en douceur, alors ça se voit pas !
La première chose pour moi à dire sur Le Jour se lève, c'est la mention de son réalisateur Marcel Carné, énorme personnalité du cinéma français, probablement un des inventeurs du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, du cinéma moderne. Marcel Carné, c'est Le Quai des Brumes, c'est Hôtel du Nord, c'est Thérèse Raquin. Marcel Carné, c'est aussi une personnalité un petit peu particulière par rapport à l'histoire française, puisque c'est quelqu'un dont on ne sait pas vraiment s'il a été collaborateur du régime nazi ou pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il n'a pas arrêté de faire des films pendant la guerre, ça lui a été reproché. Là, on est en 1939 avec Le Jour se lève, donc juste avant le début de la guerre ou au début de la guerre. Après, il fera Les Visiteurs du Soir et puis surtout Les Enfants du Paradis. Les Enfants du Paradis, c'est une production qui a été très compliquée, qui s'est faite pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a eu des répercussions sur sa vie d'après, puisqu'il passera devant les tribunaux à la Libération, qui devront définir si oui ou non Marcel Carné a collaboré. Finalement, il sera condamné à quelque chose d'assez léger, puisqu'il n'arrêtera pas de faire des films après. Bien au contraire, Le Jour se lève est son cinquième long métrage sur une carrière qui en compte un peu plus de 20. Donc voilà, c'est un réalisateur qui ne va pas s'arrêter là. Mais je pense que c'est important de bien contextualiser le personnage. Et c'est important parce que c'est aussi quelqu'un qui va créer un des plus grands mouvements, un des mouvements les plus importants du cinéma français, que l'on appelle le réalisme poétique. Alors il ne va pas le faire tout seul, il collabore pour ça avec Jacques Prévert, qui est généralement son co-scénariste, mais aussi son dialoguiste. Marcel Carné et Jacques Prévert, ce sont deux hommes qui ne s'entendent pas très très bien, qui pourtant vont travailler et faire des choses extraordinaires, mais ils ne s'entendent pas particulièrement bien. Et Marcel Carné disait que lui réalisait et Jacques Prévert dialoguait. Et ensemble, ils écrivaient. Voilà, ça vous donne une petite idée de la collaboration. Et le réalisme poétique, c'est un mouvement qui va donc quasiment naître avec eux et qui va porter jusqu'à très tard les couleurs du cinéma français. Puisque, en réalité, c'est un style qui va commencer à mourir ou souffrir, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale et qui disparaîtra totalement avec l'arrivée de la Nouvelle Vague. Donc il se passe environ 10 ans avant que la Nouvelle Vague, 10-15 ans avant que la Nouvelle Vague prenne le dessus et que le réalisme poétique disparaisse. Mais on a quand même eu quelques films magnifiques et je pense sincèrement que Le Jour se lève en fait partie. À noter aussi que Jacques Prévert n'est pas le seul scénariste sur ce film, puisque Marcel Carné a aussi collaboré avec Jacques Viot, qui est un monsieur qui était écrivain, qui a aussi été scénariste et qui donc sur Le Jour se lève occupe le poste de scénariste, scénario qui sera adapté par Jacques Prévert plus tard. Voilà. Alors maintenant qu'on a dit ça, Le Jour se lève, ça ne se limite pas à être du réalisme poétique et basta. C'est aussi un film qui est très très intéressant en soi. Et la première raison à cela, c'est que c'est un film, un des premiers films, en tout cas probablement le premier film en France, à utiliser la structure du flashback ou l'analepse. C'est un mot savant pour dire flashback, vous pouvez le réutiliser maintenant que les terrasses sont ouvertes, vous aurez l'air très intelligent. Cette structure en flashback inquiétait énormément Marcel Carné, à tel point qu'il y a un carton au début du film nous indiquant que le personnage principal, François, va repenser aux événements et que c'est pour ça qu'on revient en arrière. Il faut dire qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, c'était non seulement probablement le premier film en France à utiliser cette structure, mais c'est probablement aussi un des tout premiers films au monde à utiliser cette structure. Puisque Citizen Kane, qui est le film qui va populariser cette pratique, n'est pas encore sorti en 1939, il sortira quelques années après. Et donc, vraiment, Marcel Carné était inquiet à quelques jours de la diffusion du film, de se dire, mais est-ce que les gens vont seulement comprendre ce qui se passe ? Voilà, moi je trouve ça rigolo de penser à ça, puisqu'aujourd'hui on est tellement habitué au flashback que ça nous semble presque absurde, et surtout que le film est extrêmement bien construit, bien monté, enfin je veux dire, il n'y a aucun doute possible. Mais effectivement, en 1939, bah c'est quand même une sacrée prise de risque et ça me rend Le Jour se lève encore plus sympathique. Enfin, deux choses viennent s'ajouter à la longue liste pour moi de choses importantes et intéressantes à propos de ce film. La première, bah simplement que c'est un film extrêmement moderne de par sa forme, de par sa beauté aussi. C'est un film qui est magnifique avec un noir et blanc nuancé sublime. Si vous le trouvez en HD, bah franchement n'hésitez pas un seul instant, je pense que ça vaut beaucoup plus le coup de le voir comme ça que sur une copie DVD moyenne, on va dire. Donc au-delà de sa structure en flashback qui est particulièrement moderne, c'est aussi un film qui est moderne sur le message qu'il nous transmet. Aujourd'hui, on appellerait ça du drame social. C'est un film sublime sur la déshumanisation et c'est aussi, je trouve, un témoin précieux de la vie d'avant-guerre. C'est aussi pour ça qu'on regarde des films, c'est pour savoir comment était la vie quand nous n'étions pas nés. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, Le Jour se lève se place vraiment au top, quoi. Et la deuxième chose, pas des moindres, ben c'est tout simplement la prestation de tous les acteurs. Alors on retrouve Arletty, qui est une grande habituée de Marcel Carné, Jules Berry, bien sûr, et puis Jacqueline Laurent dans le rôle de Françoise, mais surtout évidemment l'énorme star, c'est Jean Gabin, qui au moment du tournage a 35 ans et qui aura une trajectoire assez similaire à celle du réalisme poétique, puisque la carrière de Jean Gabin, elle a été brisée par la guerre, brisée en deux. Nous, on est surtout habitués à le voir après-guerre, donc quand il a déjà ses cheveux blancs, qu'il joue ses rôles de vieil homme un peu bougon, râleur, auquel on est très habitués en France. Et là, on le voit en fait avant la guerre, dans un rôle auquel on n'est pas habitué et avec un physique auquel on n'est pas habitué non plus. Et moi, je trouve ça presque bouleversant, en fait, d'assister à ça. Et ça rajoute à la préciosité de ce film que je trouvais déjà très, très précieux. Le Jour se lève, il est disponible sur Filmo TV si vous avez un forfait. Sinon, il est disponible à la location aussi pour 2,99€. Et cette même année 1939, sortait Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, Georges Cukor, Mervyn Leroy, Norman Taurog, Richard Thorpe et King Vidor. La règle du jeu de Jean Renoir et Autant en emporte le vent de Victor Fleming, Georges Cukor encore et Sam Wood. Grosse année pour Fleming et Cukor, mais on en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Voilà, c'est fini pour cette fois. Merci à tous de m'avoir écouté et merci à tous pour vos retours sur le premier épisode. Ça fait chaud au cœur. Si le podcast vous plaît, je vous encourage à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. Si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur Instagram où j'officie en tant que Charles Eddy et où je serai content de connaître votre avis sur les films dont je viens de vous parler et de découvrir vos recommandations si vous en avez. Enfin, si vous utilisez Discord ou bien si vous voulez vous y mettre, rejoignez donc le vaisseau Hyper Sans Sas. Vous trouverez un chan où on parle de cinéma en général et des films proposés ici en particulier. La communauté du vaisseau et moi-même vous y attendons. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour vous conseiller 4 nouveaux films. Et en attendant, bon visionnage à tous. À très bientôt !